ce mercredi 10 avril 2024 dans le cadre du Printemps du droit local, retrouver la troisième et dernière conférence organisée pour le 100e anniversaire du droit local alsacien-mosellan. Ça s'est passé à l'hôtel de la collectivité européenne d'Alsace. Le thème de cette rencontre, éclairage sur le droit local des cultes, où il est question de la formation des enseignants religieux et des cours dispensés. Retrouvez l'introduction de Jean-Marie Wörling, le président de l'Institut du droit local alsacien-mosellan.
Je suis le président de l'Institut du droit local alsacien-mosellan. C'est cet institut qui, en collaboration avec la collectivité européenne d'Alsace, a lancé cette série de rencontres que nous avons appelée le printemps du droit local. Alors, pourquoi cette formulation? C'est pour souligner que ce droit local, ce n'est pas une vieillerie, ce n'est pas un droit transitoire en voie de disparition, c'est un droit vivant et qui a de l'avenir. Et nous voyons cet aspect vivant, actuel et ouvert vers l'avenir dans le droit local des cultes, et c'est dans cet esprit que nous avons invité un certain nombre de personnes qui vont vous parler de certains aspects de ce droit local des cultes.
Francis Messner, directeur de recherche émérite au CNRS, professeur à l'Université de Strasbourg.
Le droit local des cultes, c'est à la fois un statut pour les ministres du culte, c'est à la fois l'obligation pour les communes de participer à l'entretien des bâtiments cultuels. C'est également le régime des congrégations. Ce qui est le plus connu dans le droit local des cultes, c'est effectivement la rémunération des ministres du culte et l'entretien des bâtiments affectés au service public des cultes. Vous avez certainement suivi toute une série d'événements dans les médias, des tensions dans la société, notamment des tensions interreligieuses ou des tensions soi-disant à cause de religion. Le fait d'avoir une formation adaptée dans le domaine religieux, une formation adaptée à la fois pour les jeunes mais également pour les ministres du culte, peut faire baisser les tensions, et c'est une particularité du droit local. Sur les autres parties du territoire, il n'existe pas de facultés de théologie qui sont placées dans les universités publiques, et il n'existe pas un enseignement religieux qui figure dans les programmes de l'enseignement dans les écoles, les collèges et les lycées.
Le doyen de la faculté théologique protestante, Thierry Legrand, professeur en histoire des religions.
La faculté de théologie protestante de Strasbourg a une très très longue histoire, hein, et une histoire qui est liée à la réforme. Donc 1538, c'est la date de la création de la haute école, comme on dit en Alsace avec un H aspiré, humaniste. 5 siècles d'histoire, des siècles complexe. Depuis 130 ans à peu près, nous sommes logés au palais universitaire, au lieu de la science que l'Empire germanique avait construit à cette époque-là. Alors évidemment, les choses ont bien évidemment évolué depuis, mais l'esprit scientifique, l'esprit d'ouverture et de dialogue demeure pour la transmission d'enseignements qui se veulent à la faculté, je crois, au niveau des attentes de l'université française. L'image d'une belle architecture monumentale ne suffit pas pour défendre la qualité des enseignements qui y sont donnés. Martelons que nous sommes une composante à part entière de l'université de Strasbourg, la seule pour la théologie protestante en France. Nous sommes d'abord au service de l'université française. Formés à la théologie protestante, se fait par des enseignements très divers, histoire, philosophie, dogmatique, musicologie, Nouveau Testament, Ancien Testament, sociologie, théologie pratique, mais aussi les langues anciennes, grec, hébreu, araméen, syriaque, qui permettent d'aborder, par une lecture scientifique et raisonnée, des textes fondateurs des trois monothéismes et d'autres religions comme le bouddhisme. Nous avons entre 450 et 500 étudiants inscrits pour l'ensemble des formations. Parmi ces étudiants de licence, plusieurs sont en lien avec un institut œcuménique, l'Institut œcuménique Al-Mouafaka à Rabat, pour ceux qui connaissent. C'est une licence délocalisée, unique en son genre, je dirais même unique au monde, allons-y carrément, au Maroc, pour former à la théologie, mais pas seulement, à l'œcuménisme. Des étudiants, des étudiantes qui encadreront plus tard des communautés et des églises de l'autre côté de la Méditerranée et aussi ailleurs en Europe. Nous avons aussi une cinquantaine d'étudiants en master. C'est un chiffre relativement modeste, mais ces étudiants en master pourront être formés à devenir pasteurs. Je rappelle ici quelque chose qu'on oublie souvent. Les facultés de théologie ne forment pas des prêtres et des pasteurs. Elles forment à la licence, au master, au doctorat. Les églises sont chargées de suivre la suite de la formation.
Le doyen de la faculté théologique catholique, Marc Faix.
Effectivement, nous ne formons pas directement les cadres de l'Église, mais nous y participons. Nous sommes partenaires et il y a des échanges sur les contenus de formation avec notamment les instances de l'archevêché et surtout les instances du Saint-Siège, dans la mesure où la faculté a une double tutelle. Pour moi, en théologie catholique, c'est-à-dire l'État d'un côté, avec toutes les contraintes et les aspects juridiques liés à l'enseignement supérieur et à la recherche en France, mais aussi une tutelle du Saint-Siège par accord international, puisque nos diplômes sont également reconnus comme des diplômes canoniques. Ce qui signifie que ces diplômes donnent le droit à ceux qui en sont titulaires d'enseigner dans les séminaires ou d'autres institutions ecclésiales catholiques. Pour compléter ce qu'a dit Thierry Legrand, pour ma part, pour la faculté de théologie catholique, il y a aussi, comme le disait Francis, cet aspect que nous sommes nés officiellement en 1902, donc une loi allemande. Mais il existait préalablement une université catholique depuis Louis XIV. Donc elle était au lycée Fustel de Coulanges, mais avec et à Molsheim, lorsque Strasbourg était entièrement protestante. Que va-t-il se passer au retour de l'Alsace à la France après 1918 ? Comme elle a été créée en 1902 par l'empereur pour contrôler la formation du clergé alsacien, eh bien par pragmatisme et accord entre Séréti et Poincaré, à ce moment-là, donc Séréti était le nonce apostolique, c'est-à-dire l'ambassadeur du Saint-Siège en France, eh bien par pragmatisme, devant le risque de voir le futur clergé alsacien aller se former dans des universités germaniques, eh bien la France a décidé de maintenir cette formation dans le cadre d'université d'État, là aussi, pour avoir des garanties de ce point de vue-là. Une autre particularité qui nous distingue, c'est que nous avons deux branches dans notre faculté de théologie catholique, la théologie proprement dite d'un côté, mais aussi le droit canonique de l'autre, qui délivre aussi les diplômes en droit de l'Église, donc en droit interne de l'Église, dans la formation notamment de ceux qui vont travailler dans les officialités, c'est-à-dire les tribunaux ecclésiastiques, dans les diocèses.
Même s'il était question de la création d'une faculté de théologie musulmane en 68, en 97, et lorsque Jean-Pierre Chevènement était à la tête de la nouvelle Fondation de l'Islam de France, en 2016, la faculté de théologie musulmane n'a jamais vu le jour. En revanche, ce sont des pôles d'islamologie qui ont été créés. Saïd Allah, président de la Grande Mosquée de Strasbourg, sur cette faculté qui n'a jamais vu le jour.
C'est regrettable parce qu'aujourd'hui, on parle tous de la formation des imams et des cadres religieux sur le sol français, mais on manque un petit peu aujourd'hui de cet encadrement. On aurait pu bénéficier de cette expertise universitaire pour doter un petit peu nos cadres religieux d'une formation adéquate à la fois au niveau des textes, mais aussi au niveau des réalités de la société française. Je peux dire que la question de la formation, elle est très ancienne. Elle est préoccupante et beaucoup de responsables religieux musulmans, et, que ce soit des imams ou que ce soit des présidents de grandes mosquées, se sont penchés sur cette question-là parce qu'elle est pertinente et elle est urgente en même temps. Cette formation répond à trois attentes différentes. Tout d'abord, une attente des pouvoirs publics qui s'est manifestée depuis quelque temps par la volonté du gouvernement d'arrêter ou de stopper les imams détachés. Donc là, on est dans une période un petit peu de rupture par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Justement, comme a avancé comme argument, par crainte d'ingérence des puissances étrangères dans la gestion du culte musulman. Donc on a à peu près un pourcentage très faible des personnes qui ont un diplôme de formation d'imam. On estime ça entre 10 et 15% d'effectifs exerçants. Cela ne veut pas dire que les personnes qui exercent un petit peu cette fonction n'ont pas de connaissances solides dans le domaine de théologie. Il y a en même temps un besoin de la communauté musulmane. La communauté musulmane qui s'appuyait en partie sur les imams venant de l'étranger, on va se retrouver aujourd'hui démunis de cette partie-là. Donc, à peu près, ce n'est pas un grand effectif aujourd'hui. Elle se situe autour de 300 personnes sur le 3000, c'est-à-dire pas plus de 10% de l'effectif total. Mais il y a aussi un certain nombre d'imams qui prennent de l'âge et qu'aujourd'hui, ils sont à l'âge de la retraite et que dans les années à venir, on aura un manque considérable d'imams. Et de personnel religieux, que ce soit aumônier ou enseignant, dans différentes fonctions. La Grande Mosquée de Strasbourg, avec l'Union, qui travaille aussi dans le réseau de l'Union des mosquées de France, qui est un réseau d'à peu près de 700 mosquées, travaille aussi sur le projet de création d'un institut de formation des imams et des aumôniers et des autres cadres religieux à Strasbourg, au sein même de l'ancien locaux de la Grande Mosquée de Strasbourg. Aujourd'hui, on parle beaucoup de formation, mais je pense qu'il y a un autre volet sur lequel on ne met pas beaucoup d'accent, parce que former par qui et comment et pourquoi. Il faut une réforme du discours religieux, parce que le discours religieux aujourd'hui théologique, il est adapté aux pays des pays musulmans à majorité musulmane, dont la religion est généralement la religion d'État, et pas dans une société multiconfessionnelle, laïque, détachée un petit peu.
Francis Messner sur la formation des rabbins.
Alors pour ce qui concerne la communauté juive, les rabbins et les grands rabbins sont formés au séminaire israélite de Paris, y compris les rabbins du culte reconnu juif dans les trois départements. Le séminaire rabbinique est un établissement privé d'enseignement supérieur. Mais il existe au sein des universités, et notamment au sein de l'Université de Strasbourg, un institut d'études hébraïques qui utilise les sciences humaines et sociales pour présenter les textes fondateurs de la religion juive. Donc on a l'équivalent de l'Institut d'islamologie tel qu'il existe maintenant à l'Université de Strasbourg pour la communauté juive par le biais de l'Institut d'études hébraïques. Il y a très peu d'enseignements religieux. Il y a un cours, je crois, à l'école internationale qui est donné par un rabbin, et donc ce n'est pas significatif. Mais comme cela a été signalé, le travail qui a été réalisé, notamment pour monter le projet d'un cours interreligieux, a été fait avec des représentants de la communauté juive, et c'est le rabbin de Haguenau, le rabbin Heidman, qui a participé pratiquement à toutes les réunions. Et actuellement, le travail se continue avec le rabbin Rebibo. Donc, il ne faut pas qu'il y ait non plus de mauvaises interprétations. Ils font partie des différents conseils, mais on ne voulait pas rajouter de manière plus ou moins inutile un représentant de cette communauté qui n'était pas directement concernée par la thématique qui était développée ce soir.
Jean-Marie Verling, président de l'Institut du droit local alsacien Mosellan, sur la dispense des cours religieux à l'école.
À l'origine, c'était les enseignants eux-mêmes qui faisaient l'enseignement religieux. Et c'est pour cela qu'on avait d'ailleurs des écoles dites confessionnelles, c'est-à-dire des écoles catholiques avec des enseignants catholiques pour faire l'enseignement religieux catholique, des écoles protestantes avec des enseignants protestants pour faire l'enseignement religieux protestant. Ce système a été abandonné progressivement parce que les enseignants ne voulaient plus faire les cours de religion. Et donc, il a fallu trouver une alternative. Et l'alternative a consisté pour l'administration de l'éducation nationale à faire appel aux institutions religieuses pour qu'elles fournissent des enseignants de religion. Elles fournissent le personnel qui assurerait ces enseignements. Alors, les églises catholiques et protestantes ont fait ce travail. Elles ont formé des enseignants de religion et elles ont défini des programmes. Elles ont fait valider ces programmes, ces enseignants, par l'administration de l'éducation nationale. Et de cette manière-là, ces enseignements peuvent se réaliser. La loi elle-même ne fait pas de différence entre les religions. Elle prévoit qu'il doit y avoir un enseignement de religion pour tous les enfants. Mais actuellement, l'éducation nationale n'assure pas, en quelque sorte, cette obligation légale.
Et à propos toujours des cours religieux à l'école, Christophe Sperissen, prêtre, responsable du service de l'enseignement de la religion à l'école publique pour les autorités catholiques.
La proposition de ce soir se situe dans une troisième ou quatrième rencontre autour du printemps du droit local. C'est une très très belle expression. Printemps, ça veut dire qu'il y a un été qui arrive et ça veut dire que des choses peuvent encore bourgeonner et fleurir. Et c'est bien ainsi que l'on envisage le cours de religion à l'école, l'enseignement religieux, un héritage qui nous a été confié. Et le cours de religion a beaucoup évolué, et notamment depuis près de 20 ans du côté catholique. J'entre dans le premier temps pour vous parler des destinataires du cours de religion, du côté catholique comme du côté protestant, mais nous considérons, nos responsables nous invitent à envisager le cours de religion comme ouvert à tous les élèves, quelle que soit leur confession ou pas de confession. Voilà, ce cours de religion se veut ouvert à tous les élèves d'école primaire, de collège et de lycée. Évidemment, cela suppose un changement de posture. Parce que de ce fait-là, nous ne sommes plus du côté catholique dans un enseignement dit catéchétique. D'ailleurs, pendant longtemps, on parlait du cours de religion comme la catéchèse scolaire. Du côté catholique, en 2024-2025, ce sont près de 35 000 élèves qui sont inscrits au cours de religion à l'école élémentaire. 35 000 élèves, ça doit représenter un peu moins de 40% des élèves qui sont inscrits dans l'ensemble de la scolarité. Et puis pour les collèges-lycées, actuellement c'est un peu moins de 10 000 élèves qui sont inscrits dans les collèges et les lycées. Ça représente un peu moins de 10% des élèves inscrits en scolarité, collège et lycée. Le public que nous accueillons, ce sont donc des élèves, des enfants et des jeunes qui ont envie de venir à ce cours, puisqu'ils peuvent s'inscrire librement et en bénéficier. Et ce sont des élèves donc qui, la plupart du temps, vous voyez, restent fidèles dans le moment de la scolarité, mais avec les limites que je viens d'évoquer.
Ove Ullestad, responsable du service protestant de l'enseignement religieux à l'école.
La collaboration entre catholiques et protestants aujourd'hui se développe de plus en plus, aussi parce qu'on met en place des heures interconfessionnelles, comme on dit, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un intervenant dans le primaire, un intervenant catholique qui va aussi avoir dans ses classes des élèves protestants, et vice-versa. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on insiste, on répète et on répète. La catéchèse appartient à la paroisse, l'enseignement religieux, c'est à l'école. Hein, et on distingue, mais très clairement, les deux. Ça veut dire aussi que nous demandons à nos intervenants de religion, à nos professeurs de religion, de s'inscrire dans cette laïcité de l'école. Ça veut dire, très concrètement, qu'on leur demande une neutralité aussi, en termes de posture devant les élèves. Hein, il y a là quelque chose qui me semble fondamentalement important. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que les élèves puissent découvrir pas seulement la religion, ni protestante ni catholique, mais les religions, de pouvoir découvrir. On cherche à ce que les élèves puissent aussi acquérir, si on peut dire, de plus en plus, un esprit critique par rapport à ce qu'ils découvrent dans ces cours de religion, de pouvoir les interroger, de pouvoir aussi davantage pouvoir discuter et peut-être même comprendre qu'il y a une part de croyance, il y a un quart de science. Hein, il y a quelque chose.
Vous avez pu écouter des extraits des intervenants de la rencontre « Éclairage sur le droit local des cultes ». C'était dans le cadre des 100 ans du droit local alsacien mosellan. Cette rencontre a eu lieu à l'hôtel de la collectivité européenne d'Alsace.